Europe 1,
11h 12h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30. Et donc pendant 1h30, il y aura de nombreuses belles choses au programme, vous allez l'entendre. Mais Julia, par quoi va-t-on attaquer ?
Eh bien Mélanie, comme tous les jours, nous allons démarrer en nous posant une question de notre vie quotidienne. Et celle du jour, la voici. Comment préparer un entretien d'embauche ? Bien le préparer pour le réussir évidemment et décrocher le job de vos rêves. Nous verrons ensemble comment mettre en avant nos atouts et esquiver avec brio les questions pièges. Et celui qui nous apprendra toutes les meilleures ficelles pour y parvenir, ce sera Charlie Clark. Il est président de Wiscom, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers.
Et puis Julia, à 11h35, ce sera notre dossier santé-bien-être du jour avec un thème qui va intéresser tous les futurs ou jeunes parents qui nous écoutent. On va parler de l'alimentation des tout-petits, de la diversification et même de la DME, la diversification menée par l'enfant. C'est à la mode, mais quels en sont les bienfaits et comment la mettre en place en pratique sans stress? C'est Marie Ruffier-Bourdet qui viendra nous expliquer tout cela. Elle est ergothérapeute spécialisée en pathologies digestives et alimentaires des enfants.
Et ensuite, Mélanie, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour, c'est le chef Abdel Alaoui qui va la prendre en main et qui va pétrir avec nous. Il nous propose de mettre du pain, voire même des pains du monde entier sur la table ce midi. Et puis ensuite, ce sera au tour du docteur Aurène Marco, le docteur Beauty sur les réseaux sociaux, de passer à l'action. Aujourd'hui, dans sa chronique beauté, c'est notre décolleté qu'il va mettre à l'honneur. Il va nous donner ses meilleurs conseils pour le mettre bien en valeur et le garder bien tonique le plus longtemps possible.
Voilà, et enfin Julia, on finira cette séquence dans le dynamisme avec les conseils de notre coach sportif Jean-Marc Delorme, comme tous les mardis. Évidemment, nous sommes le 4 janvier, donc là je crois qu'on ne va pas y échapper. Oui, nous sommes nombreux à avoir pris la résolution de bouger plus en 2022. Clément Lanoux qui est déjà là hoche la tête. Eh bien oui. Jean-Marc, Clément nous dira comment tenir cette fois plus longtemps que le 5 février, ça serait pas mal.
Merci.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être Mieux Vivre et ici vous le savez, on tente de vous faciliter la vie dans tous ses aspects et ce matin, c'est du côté professionnel qu'on va se tourner, on va tenter de répondre à cette question, comment réussir un entretien d'embauche?
Et oui Julia, on entre dans une nouvelle année, alors certains ont peut-être décidé de changer de boulot, ça arrive, hein, de postuler pour ce job hein, qui les fait rêver depuis si longtemps, et puis il y a aussi ceux qui cherchent tout simplement un emploi mais que l'épreuve de l'entretien tétanise alors qu'ils ont toutes les compétences pour ce boulot. Alors on va vous donner de nombreux conseils ce matin, ne vous inquiétez pas, quel que soit votre cas de figure. Mais avant ça, on va se tourner vers celui qui l'a déjà, hein, le job de rêve. Hein, tous les jours, il part à la rencontre des Français pour papoter, leur demander leur avis sur notre thème du jour. Bonjour Clément Lanoux.
Et je reviens face à vous, donc oui, c'est le job de rêve. Bonjour tout le monde, effectivement on va parler aujourd'hui entretien d'embauche. Qu'on se mette bien d'accord déjà, c'est quoi un entretien d'embauche?
C'est quand tu vas à un rendez-vous. Pour être pris dans un travail.
C'est quand tu vas voir le patron d'une entreprise pour essayer de travailler dans cette entreprise. Et du coup, il te teste, il te pose des questions pour savoir si tu peux être pris, si tu as les qualités pour être pris et pourquoi toi et pas un autre.
Oui, l'entretien, ça arrive après le CV. On connaît tous le CV, évidemment. C'est l'endroit où on ment normalement, où on en rajoute. Alors, j'ai voulu poser d'abord une question, de dire, est-ce que vous avez déjà menti sur votre CV? Je vous la pose à vous, Mélanie,
non,
Julia.
Non, évidemment que non. Évidemment que si.
Hein. Évidemment que si. Alors, rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas les seuls. J'en ai quand même trouvé une personne dans la rue qui n'a jamais menti sur son CV, juste avant de me rendre compte que c'était un super-héros. C'est Boularman, l'homme qui a le plus le boulard en France en 2022.
Non, j'ai pas menti. J'ai la chance d'avoir un bon CV et pas mal d'emplois derrière moi, donc j'ai jamais menti. J'ai plutôt réduit mon CV parce qu'il était un peu trop long, mais jamais menti pour ça.
Et voilà, donc je rencontre ce super héros. Je suis en train de discuter avec Boularman et là il y a une dame qui m'interrompt. Je dis pardon, je suis en train de parler avec Boularman. Ah, vous avez une question, madame?
Alors s'arranger avec la vérité, est-ce que c'est mentir?
Très bonne question. Est-ce que s'arranger avec la vérité, c'est mentir? Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que vous entendez par s'arranger avec la vérité?
Non, mais généralement, quand on a une expérience sur un certain nombre de mois, où on a fait, sur 6 mois, on a fait par exemple 1 mois d'une activité donnée, alors que c'est l'activité qui est proposée pour ce poste-là, on va un petit peu s'arranger avec la vérité en disant qu'on l'a fait pendant 3 mois ou 4 mois, enfin des choses comme ça.
Oui, ça c'est pas mentir.
C'est pas mentir, non, effectivement. Non. C'est embellir, ça s'appelle, ça porte un nom. Hein. C'est sublimer la vérité. C'est ce qu'a fait cette dame également. Vous
c'est
n'avez pas
poésie.
Menti, madame. Vous n'avez pas menti.
Non, j'ai mis en avant ce qui était le plus flatteur, mais j'ai jamais menti. Non, ah non, on l'a sublimé. Rien à voir.
Rien à voir. Sublimer la vérité. Si par exemple vous dites sur votre CV, je suis explorateur culinaire spécialisé en gastronomie sicilienne, c'est pizzaïolo. Voilà, ça peut... il faut juste mettre les choses en valeur. Alors je me suis tourné vers les enfants qui ont de très bons conseils. Si vous avez dans les jours à venir, dans les semaines à venir, un entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Voici les réponses des enfants.
Faut pas trop parler de tes défauts et beaucoup parler de tes qualités.
Faut dire, j'ai un seul défaut, c'est trop perfectionniste.
Oh. Tu fais exprès d'arriver hyper en avance et tu dis. Bonjour, je suis arrivée en retard, désolée, c'est pas grave, non ?
J'ai l'habitude d'être en avance, très mignon. Alors au début, parce qu'après il m'a quand même sorti une autre phrase, je lui ai dit s'il y a un truc à ne jamais dire quand t'arrives à un entretien d'embauche, ce serait quoi ?
Je sors de 10 ans de prison, est-ce que je peux travailler avec les enfants s'il vous plaît ?
Bah non, du coup ça ne fonctionnera pas. J'espère vous avoir aidé en tout cas à trouver du boulot. Sinon je compte sur le reste de l'émission pour le faire beaucoup mieux.
Non mais c'était super, merci Clément hein, pour cette mise en bouche sur notre thématique de ce matin. C'était parfait avec du fond, de la légèreté en même temps, franchement merci.
Parfait.
On va à présent passer à notre invité, celui qui va nous faire une préparation à l'entretien d'embauche dans les règles de l'art. Bonjour Charlie Clark.
Bonjour, bonjour.
Alors vous êtes présidente de Wiscom et vous étiez venu l'an dernier hein, dans l'émission. Je rappelle que vous êtes un expert en stratégie orale et prise de parole en public. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on est autant terrifié et stressé quand on passe un entretien d'embauche? Comment on explique ça?
Tout simplement parce qu'il y a de l'enjeu. Quand on passe un entretien d'embauche, on n'est pas là pour vendre un kilo de salade. Hein. C'est quand même les mois, les années qui vont suivre qui sont en jeu. Il y a de l'enjeu. Et on ne sait pas quel est l'état d'esprit de la personne qui est en face. Ça, c'est assez déstabilisant. Et bien sûr, on est jugé. On est jugé sur ce qu'on est en tant que personne, avec ses qualités, avec ce qu'on dit. Et ça prouve encore une fois l'importance vitale de l'oral. Mmh. C'est pas un CV, vous l'avez dit Clément, qui vous fait embaucher, c'est l'oral, l'entretien d'embauche. Et donc, il faut avoir des techniques, il faut maîtriser l'oral, il faut se former, comme toujours.
Clément ?
Il faut aller en passer finalement quand on cherche pas de travail ou on n'a pas de pression ?
C'est sûr que quand on n'a pas de pression, généralement, on est meilleur. Hein, mais il y a des techniques pour lutter contre la pression, je suis sûr qu'on va y revenir aujourd'hui.
Ah, ça c'est alors justement, certain. Nous on a dit qu'on allait se préparer ce matin, vous avez dit c'est parce qu'il y a de l'enjeu, qu'on est à ce point terrifié parfois, mais est-ce qu'il faudrait pas justement ne pas se préparer du tout et y aller à l'impro au panache, hein. Ça peut fonctionner aussi sur un coup de bol.
Soyons clairs tout de suite ce matin.
Clément, je suis sûr qu'il réussirait n'importe quel entretien d'embauche pour n'importe quel boulot.
C'est le syndrome Miss France. À chaque fois, Miss France, on leur demande comment vous êtes devenue Miss France. Et il y a toujours cette phrase, comme beaucoup de castings, j'accompagnais une copine. Moi, je ne voulais pas du tout. Et finalement, ils n'ont pas pris ma copine, ils m'ont pris moi. Et il y a un peu de ça, en fait, peut-être.
Ça, ce matin, soyons clairs, ça ne marche pas.
D'accord,
c'est que pour Miss
l'improvisation,
France.
Non. Ce qui fait un entretien réussi, c'est 80% de préparation.
Ah ouais.
Souvenez-vous de ce que disait Churchill, mes meilleures impros sont celles que j'ai le plus bossées.
Évidemment. Alors justement, comment on bosse un entretien? Parce que, je sais pas, il faut le répéter dans sa tête, à haute voix, devant un miroir. On écrit ce qui est obligatoire, c'est les idées phares qu'on a envie de placer absolument.
Je pense que la plupart des salariés, quand ils préparent un entretien, ils pensent dans leur tête. Ils ont les idées dans leur tête. Mais ça fera pas de vous quelqu'un de bon à l'oral. L'oral, il y a trois dimensions. Il y a ce qu'on dit, c'est les mots. Et ça, vous le travaillez dans votre tête, d'accord? Mais il y a aussi ce qu'on voit et ce qu'on entend. On parle des 3 V, le visuel, le vocal et le verbal. Et pour être bon à l'oral, il faut aligner les 3 V. Donc si vous répétez seulement dans votre tête, tout ce qui est de l'ordre du visuel et du vocal, de votre voix, ça ne va pas se travailler. Donc il faut le travailler à l'oral. L'oral, ça se bosse à l'oral.
À l'oral. Et pourquoi pas avec un copain qui fait répétiteur?
Alors, version numéro 1, version bas de gamme, devant un miroir. Mmh. Version numéro 2, si vous avez des amis, avec des amis. Et version numéro 3, si vous êtes digital.
Si vous n'avez pas d'amis.
Et ben là,
un chat peut suffire.
Le mieux, c'est quand même de se filmer. Si vous vous filmez, ça vous permet de voir vos défauts, de voir vos tics verbaux, etc.
Clément ?
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'aller sur Google et de regarder l'interlocuteur qu'on va avoir ? Est-ce que ça rajoute de la pression ou est-ce qu'au contraire, on peut se dire, tiens, il a l'air d'avoir de l'humour ?
Vous l'avez déjà fait, ça, j'ai l'impression.
Je me pose la question.
Que c'est... Honnêtement, c'est essentiel. C'est-à-dire encore une fois, c'est de la préparation. Comprendre qu'il y a en face, c'est vital. Et si vous ne le faites pas, c'est une faute grave.
Bon, je suis d'accord. Charlie Clark, vous restez avec nous. On va poursuivre cette préparation avec vous à l'entretien d'embauche pour le boulot que l'on rêve vraiment d'obtenir en 2022. D'ailleurs, y a-t-il encore un code vestimentaire à respecter aujourd'hui? Le costume, le petit tailleur, c'est toujours un passage obligé ou pas? On va voir ça. Comment gérer le trac également? Il y a des astuces infaillibles pour qu'au moins la personne en face ne puisse rien deviner de votre état de stress. On vous livre tous ces secrets dans quelques minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et nous aussi, c'est ce qu'on aime bien faire. C'est bien fait pour vous avec Princesse Erika. Mais c'est votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question. Comment préparer et réussir, bien sûr, un entretien d'embauche? Pour en parler, nous sommes toujours en studio avec Charlie Clark. Je rappelle que vous êtes président de Wiscom, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Alors, tout à l'heure, on parlait donc de ce stress qu'on peut tous avoir, évidemment, parce qu'il y a un enjeu fort quand on cherche un emploi, d'autant plus si vraiment c'est le job de nos rêves. Vous avez dit, un entretien oral, ça se prépare oralement, donc devant un miroir, avec un pote, ou on se filme en vidéo, pourquoi pas, on a des tas d'outils aujourd'hui, et ça, c'est bien pratique. Mais vous dites aussi que, lors d'un entretien, ça c'est très important, on est là pour parler des faits et non des opinions. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique?
Ça veut dire que la plupart du temps, quand un collaborateur s'exprime, il est dans le règne du « je pense ». C'est « je pense ci, je pense ça », mais ce que tu penses, on s'en fout. L'employeur, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est des faits. Et donc, il faut faire un travail très important pour lister les faits et mettre les faits en avant. Les faits sont incontestables et c'est le début pour le dialogue. Si vous voulez avoir un échange constructif, un échange nourri, il faut se baser sur les faits.
Un exemple, je ne sais pas, pour n'importe quel boulot, prenons un exemple, qu'est-ce qui serait des faits, qu'est-ce qui serait des opinions?
Eh bien écoutez, l'opinion c'est je pense que je suis bien fait pour ce poste et les faits c'est revenir sur son CV, quel qu'il soit, revenir sur les compétences qu'on a développées dans les précédents jobs qui peuvent rassurer l'employeur et lui dire ouais, lui, c'est la perle rare.
Bah oui, c'est ça. Il faut le rassurer finalement, ce petit bonhomme en face de nous.
D'accord.
Est-ce qu'on a le droit de bluffer si par exemple la personne nous demande où on en est, si on a eu d'autres entretiens avec d'autres sociétés, qu'on dit bah, j'ai eu trois rencontres, les trois pour l'instant m'ont proposé l'emploi, mais je suis venu vous voir quand même.
À un niveau de salaire énorme en plus, mais je suis quand même venu vous voir.
Ce qu'a dit Julia est très vrai, il faut rassurer. Donc si vous dites la vérité, mais que cette vérité n'est pas rassurante, du genre moi je suis là pour trois mois et après je pars dans le Larzac élever des moutons, ça va pas rassurer l'employeur qui est en face de vous. Donc le job, c'est de lui dire la vérité le plus possible et de le rassurer au plus proche de ce qu'il veut entendre.
Mais s'il y a d'autres gens qui veulent nous embaucher, on peut lui dire j'ai été approché, mais je suis face à vous et je serais ravie que vous me proposiez cet emploi.
Ça c'est bien, ça fait monter la pression, ça fait monter les enchères.
Et en même temps, on le rassure.
Absolument.
Alors, pour réussir brillamment son entretien d'embauche, vous mettez en place la méthode de sport.
Ouais.
C'est quoi ça?
Alors, c'est pas une méthode pour perdre du poids, même si on est en début d'année.
On y viendra en fin d'émission, ne vous inquiétez
après.
Pas.
C'est les 5 règles à respecter pour performer dans un entretien. Et le sport, c'est donc une règle qu'on a créée chez Wiscom, c'est un acronyme. Le S, c'est le sourire. Quand vous souriez, notez bien, vous faites la différence. Peu de personnes sourient parce que souvent, elles sont stressées. Le P sont les pieds. On en avait parlé la dernière fois, les pieds, c'est très important. Si vous n'accrochez pas les pieds au sol, vous allez disjoncter, vous allez avoir trop de pression en vous. Le O, ce sont les mains, l'ouverture des mains, parce que ces mains, elles nous trahissent. On parle d'autocontact, ce sont ces signaux que vous faites sans vous en rendre compte, qui viennent montrer que vous êtes nerveuse dans l'exercice. Donc on ouvre les mains et on ne joue pas avec ses mains. Le R, voilà, c'est le regard. Il faut un regard généreux, un regard
franc.
Qui soit franc, droit, parce que sinon, c'est qu'il y a un problème. Et le T, très important, c'est se taire. ça vous paraît surprenant, mais...
Ah oui, un entretien d'embauche nous conseille de nous taire, c'est étonnant.
Ouais, parce que plus vous faites des silences, plus vous êtes à l'aise. Celui qui est stressé va chercher à parler, à en rajouter, il va faire ce qu'on appelle en communication le syndrome de l'essuie-glace. C'est une information qui très vite vient balayer l'autre pour ne pas qu'on se concentre sur l'information. Si vous vous taisez après une phrase, c'est que vous êtes serein avec
bien
ce que
sûr.
Vous venez de dire.
Et puis ça donne l'air intelligent de se taire. D'ailleurs, je vais le faire là, immédiatement. Taisez-vous, Julia.
Alors justement, il y a aussi autre chose qui peut nous stresser quand on va aller à un entretien d'embauche, c'est la question, on se l'est tous posé, hein, comment je vais m'habiller? Est-ce qu'il y a toujours un dress code, Est-ce qu'il y a toujours chemise, cravate pour messieurs, un petit tailleur pour mesdames? Ou est-ce que vraiment ça dépend aussi de l'emploi pour lequel on
va? Évidemment, ça dépend. Ce qui est clair, c'est qu'encore une fois, l'employeur, lui, il cherche deux choses. Un, il cherche à être sûr que vous avez les compétences pour le job. Et deux, il cherche à être sûr que vous serez bon dans la famille, que vous serez intégré à la famille. Et donc, votre job, quand vous passez un entretien, c'est de montrer que la famille, vous avez compris ses codes, vous avez compris ses signes, et que si c'est ici jean basket, c'est un peu comme ça que je vais à l'entretien.
Donc, aller se balader autour de, j'en sais rien, une tour là où on va travailler, et voir comment un peu les gens sont habillés, c'est pas mal avant, pour repérer un peu le code vestimentaire des lieux.
Qu'on soit pas... overdressed, comme on dit, c'est comme quand on arrive en soirée. Hein. Si on est à côté de la plaque en termes de thème, c'est horrible.
Ouais, c'est vrai.
J'ai compris ça. Y est,
mais quand même, gare à la première impression, parce qu'on va avoir du mal à la faire oublier. Hein.
Alors, est-ce que vous avez des petits conseils pratiques pour la gestion du trac? Tout à l'heure, vous parliez des pieds bien ancrés au sol. Est-ce que, les mains libres, est-ce qu'il y en a d'autres?
Le sourire.
Oui.
Et je dirais un petit verre d'eau. Il y a un syndrome dont je voulais vous parler ce matin.
C'est la bouche sèche.
Oui, vous connaissez ça?
Comme
elle
je fais de la
bouteille d'eau greffée à la main d'ailleurs.
Mais oui, parce qu'autrement, on a la bouche un peu. Ouais. C'est désagréable pour l'auditeur.
C'est un terme, on appelle ça la xérostomie. Et ça, c'est très embêtant parce que vous avez beau boire comme le fait Julien en ce moment, la bouche restera sèche. Et donc là, j'ai un truc à vous donner, mais ça reste vraiment entre nous. C'est discrètement, vous pincez le bout de la langue entre vos dents. Pas trop fort, faut pas couper la langue. Et là, vous allez voir qu'en faisant ça, il y a un paquet de salive qui va revenir dans la bouche.
Et ça va hydrater la bouche?
Ouais, absolument. Ça va faire un appel de salive.
Clément, vous bavez, attention.
Oui, tout à fait. J'étais en train de me taire depuis tout à l'heure. J'espère que ça fasse un effet incroyable.
Ça, c'est discret.
Ça permet quoi? De pas déglutir, par exemple?
Au contraire, ça permet à la salive de revenir dans la bouche pour pas que vous ayez cette bouche pâteuse. Vous savez, c'est ces lèvres qui claquent quand vous parlez. C'est très désagréable. C'est un syndrome de stress. Ça s'entend, ça se voit. Donc, mordez discrètement le bout de la lèvre, de la langue, pardon.
Mais pas de l'interlocuteur. Hein,
non,
la vôtre.
Juste la vôtre. Voilà. Pour commencer.
Là, vous l'aurez pas le job bien, Julien, c'est sûr. Est-ce que selon vous, il faudrait aussi pas finalement arrêter de penser forcément, parce qu'on se met le stress, on se dit, bon, de toute façon, je vais le rater. On a tendance à être très pessimiste. Est-ce qu'y aller vraiment avec un mental de winner et comment on fait pour l'avoir? Ce mental, c'est important. Comment on inverse la donne?
Bien sûr, le trac, le stress vient du fait qu'il y a un oiseau sur votre épaule qui vous murmure à l'oreille. Il va te poser la question piège à laquelle tu ne sais pas répondre. Et donc, l'idée, c'est de faire l'inverse, c'est de se dire, sur mon épaule, là, j'ai un chat qui est gentil, qui ronronne à côté de moi, et il me murmure les choses les plus douces qui vont m'arriver pendant l'entretien. Et donc, c'est ce qu'on appelle la visualisation positive. Voir les choses telles qu'elles vont bien arriver.
J'allais dire plutôt l'ami imaginaire, moi, là, parce que ce chat, je le vois maintenant,
ouais,
du coup.
Okay, ouais, exactement.
Il faut éviter de lui parler à lui, à l'animal.
Voilà, pendant l'entretien, on évite.
Pendant l'entretien, ça, on oublie le chat, il n'est plus là, on est d'accord.
Et en tant que patron, comment savoir que le candidat ment ou n'est pas à l'aise? Est-ce qu'il y a des signaux spécifiques? Parce que dites-le nous, parce que c'est surtout qu'on n'envoie pas ces signaux-là si on en entretient.
Bah, écoutez, les mains, on parlait des mains, Le corps, il parle plus fort que les mots. Et le corps, il va toujours vous trahir. Et c'est vrai au niveau des mains. Donc, il y a des signaux de stress quand on se touche les mains, quand on fait ce qu'on appelle la savonnette, quand on joue avec ses doigts. Et il y a un signal aussi, qui est un marqueur kinésique, qui est amusant. C'est l'effet Pinocchio. C'est la personne qui se gratte le nez. Et ça, je pense que vous en avez beaucoup
souvent,
vu.
Je crois,
Et quand on se gratte le nez, ça ne veut pas dire qu'on ment, mais c'est un début de preuve qu'il y a quelque chose d'inconfortable chez vous.
Ah, génial.
Et la preuve amusante, nous, on a analysé Nicolas Sarkozy, alors c'est de la politique là.
Mais
dès qu'il parle de Dominique de Villepin, vous savez qu'il, a priori, ne l'aime pas beaucoup, eh bien, il se gratte le nez. Vous voyez, c'est encore un signal qui montre qu'il y a un sujet, il y a un problème.
Pourtant, il doit être entraîné quand même, hein, Nicolas Sarkozy, on imagine.
Ouais, mais rappelez-vous, le corps parle plus fort que les mots, et le corps, il dit toujours la vérité.
Alors, depuis 2 ans, on fait aussi de plus en plus d'entretiens à distance, en visio, et là, vous dites qu'il faudrait presque exagérer les gestes, les sourires, pourquoi cela?
En visio, le sujet, c'est pas d'exagérer, encore une fois, c'est de recréer les conditions les plus proches de la réalité. Or, vous le savez, vous qui faites de la télé, quand on est derrière un écran, quand on est filmé, on perd un peu en teneur. Son sourire va moins se voir, son ton sera moins intéressant, la gestuelle sera moins intéressante. Donc le jeu en visio, c'est de rendre les choses visibles à nouveau. Et pour les rendre visibles, il faut faire un effort pour tout diriger vers la caméra. On remonte les gestes pour qu'ils soient à hauteur de la caméra, on regarde la caméra et on sourit à la caméra. Et ça va créer de l'humanité dans cette relation, même à distance.
Ah, le décor, ça doit être important.
J'allais vous dire, quel décor on crée autour de nous, comment on rend les choses jolies, parce que chez soi, on n'a pas forcément un endroit parfait pour réaliser un entretien.
On fait gaffe au décor, parce qu'effectivement, le visuel, il parle très fort.
Chez le poster de Madonna chez Julia Vignali, par exemple, elle ne se met pas devant.
D'accord, si je veux postuler en maison de disques.
Voilà. Vous avez tout compris. Il faut faire très attention au décor, parce qu'il parle pour vous, et surtout, il attire l'attention de celui qui vous regarde. Donc, si derrière vous, vous êtes dans la chambre de votre fille, qui a des posters, des photos au mur, la personne à qui vous parlez, elle va d'abord se concentrer sur ses photos derrière, et elle ne va plus vous écouter. Donc on fait gaffe à ce qui est en décor, un décor le plus neutre possible pour qu'on soit concentré sur vous et uniquement sur vous en tant que candidat.
Un mur blanc.
Pas sûr, pas de patrouille.
Ouais, un mur blanc, c'est parfait. Alors, on est aussi en pleine période des entretiens annuels.
C'est pour ceux qui ont déjà un job, hein, mais
c'est maintenant,
Mélanie,
pour
changer
se
les choses.
Alors, déjà, quel est l'intérêt de ces entretiens? Et j'imagine que c'est aussi un truc qui se prépare.
Ça se prépare des deux côtés. Là, on parle beaucoup des salariés, mais ceux qui font passer les entretiens, les managers, les patrons, ils doivent aussi préparer. Nous, on a fait une étude pour analyser l'importance de l'oral dans l'entreprise. Et on a remarqué que la parole du dirigeant, elle pèse pour 70% des salariés de façon très importante dans leur degré de motivation, leur degré d'implication et leur envie de se dépasser pour l'entreprise. Et donc l'entretien annuel, c'est aussi une occasion pour le dirigeant de remotiver le collaborateur, de lui remontrer l'importance qu'il a dans le système entreprise pour qu'il soit encore plus performant et qu'il y ait encore plus de rentabilité, etc. Donc c'est un moment crucial et pour le salarié, mais aussi pour le patron.
Pour le salarié, c'est quoi l'enjeu principal ? C'est demander du pognon ?
Mais évidemment.
Ça, c'est vrai, évidemment, c'est un des sujets, mais ce n'est pas que le seul sujet, c'est aussi valoriser son travail, hein, montrer encore une fois ce qu'on a fait, et puis faire un plan de carrière. Je pense que ça, c'est important, c'est de se dire, là, on fait le point sur l'année passée, mm-hmm. et l'année suivante, qu'est-ce que je veux aussi, quelles sont les missions que d'accord. je voudrais qu'on me confie pour pouvoir progresser, parce que le salaire, c'est une chose, mais la construction de sa carrière, c'en est une autre.
Important. C'est comme un conseiller d'orientation, c'est le moment de l'utiliser comme oui. ça, son patron, d'accord. Et c'est aussi, justement, le moment où on demande l'augmentation de salaire, vous venez d'en parler, c'est quoi la méthode pour l'obtenir ?
Alors là,
la phrase choc.
Là, je vais vous surprendre.
La phrase choc, on la veut, oui.
Je vais vous surprendre, mais...
Faut pas la demander ?
Si, on peut la demander. La meilleure méthode, c'est de ne pas parler de soi. Et ça vous surprend quand je vous dis ça, parce qu'évidemment, on est là pour parler de soi, de soi, de soi.
Oui. Je ne veux pas parler du salaire de mon voisin, je veux parler du mien.
Il faut parler de soi, mais il faut montrer l'intérêt pour l'entreprise et pour le patron de cette augmentation de salaire. Si vous dites juste, moi je veux 1000 euros en plus chaque année, ça ne va pas beaucoup intéresser votre employeur. En revanche, si vous lui expliquez que cette augmentation de 1000 euros...
va être assortie d'un travail supplémentaire.
Oui madame, elle va vous remotiver, elle va vous permettre de vous réengager dans un nouveau projet que l'entreprise vous confie, que du coup pour l'entreprise ça sort à tel et tel bénéfice, là, ça va devenir intéressant. Ça, c'est un exercice clé en communication. Quand vous parlez de vous, montrez les bénéfices de ce que vous dites pour celui qui est en face.
C'est génial. Merci Charlie Clark. J'y vais, je reviens. Je vais voir notre patronne. Surtout, vous restez avec nous, on va continuer à parler un peu d'argent d'ailleurs. Comment aborder au mieux cette question lors d'un entretien d'embauche et puis comment repérer aussi les pièges éventuellement tendus par un recruteur. On va répondre à toutes ces questions et puis aussi à celles que vous nous avez envoyées. D'ailleurs, je rappelle, vous pouvez encore nous laisser des messages au 3921, le répondeur d'Europe 1 ou encore sur nos réseaux sociaux, par exemple sur le compte Instagram de l'émission. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On tente ce matin de bien préparer ensemble notre futur entretien d'embauche. Alors bien le préparer pour le décrocher, ce nouveau boulot. Et notre coach pour y arriver aujourd'hui, c'est vous, Charlie Clark. Vous êtes président de Wiscom, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Alors moi j'ai l'impression que pour les entretiens d'embauche, il y a quand même un peu deux sortes de gens. Ceux qui les réussissent à chaque fois et puis ceux qui galèrent parce que justement, trop de stress, qui perdent leurs moyens. Alors, dans ce deuxième cas de figure, qu'est-ce qui pêche le plus souvent ? Est-ce que vous pouvez nous faire, je ne sais pas moi, le top 3 des erreurs d'entretien les plus fréquentes ?
La première erreur, c'est de ne pas préparer. Ça, c'est certain. Si vous ne préparez pas, vous ne serez pas efficace. La deuxième erreur, c'est de parler que de soi. C'est d'être que orienté vers soi et ne pas être orienté vers les bénéfices pour l'entreprise. Et peut-être la troisième erreur, c'est... de ne pas surveiller son corps, parce que un entretien, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on voit de vous, et ça joue beaucoup. Et donc la troisième erreur, c'est de ne pas se former à ces techniques-là de maîtrise du corps et de la prise de parole.
Alors on a dit qu'on allait répondre à quelques-unes des questions de nos auditeurs. On vient de recevoir celle-ci d'Amélie Fitour sur Facebook qui nous demande « Petite question, lorsqu'on a des problèmes de santé, doit-on en informer le futur employeur ?» Qu'en pensez-vous ?
Alors ça, c'est une question juridique. A priori, je ne crois pas. C'est pas obligatoire. Ça dépend si ça va nuire, évidemment, à votre organisation du travail. Je pense qu'il faut être clair aussi avec l'employeur sur l'organisation du travail. Mais si vous avez un problème de santé qui ne concerne pas l'entreprise, je ne crois pas que vous ayez besoin de le faire.
Non, bon, si on est enceinte de 1 mois et demi, on le dit ou pas ?
Vraie question. Joker.
Joker, ok. Alors, une autre question nous vient de Sonia sur Facebook qui nous demande « Est-ce qu'il faut vraiment négocier le salaire lors du premier entretien d'embauche ? Je sais que je vais avoir un deuxième tour avec un recruteur et le premier salaire qu'il m'a proposé est vraiment très en dessous de mes attentes, même si le job me tente. Est-ce qu'elle peut revenir sur ses prétentions salariales et être vraiment très franche ?»
Ça, c'est la même question que si on vous demandait si vous couchez dès le premier soir.
Ah.
La réponse, c'est non. A priori.
Ah bon ?
Il faut créer d'abord le désir chez l'autre.
Ah, c'est ça,
vous allez me trouver très puritain, hein, mais il faut d'abord créer le désir chez l'autre. Et une fois que vous avez suscité l'attention, suscité l'envie chez l'autre, là, effectivement, au deuxième entretien, vous allez rentrer dans ce sujet de la négociation, du salaire, du package.
Et alors, même la première fois, si on a fait semblant que le salaire convenait, on peut y retourner en disant, bah, finalement...
J'ai bien réfléchi.
Bien sûr. Encore une fois, rien n'est figé. Je pense qu'on est souvent trop arrêté dans l'exercice. Tout est possible. C'est une conversation entre deux personnes, un entretien d'embauche, un entretien annuel. Donc, tout est possible dans une conversation.
Mais est-ce qu'on a le droit de dire, moi, je désire, je dis n'importe quoi. Admettons, on m'a proposé 20 000 euros et moi, j'en veux 30 000. Je vous donne vraiment des chiffres au hasard. Est-ce qu'on doit parler d'un chiffre précis ou est-ce qu'on dit, voilà, est-ce que vous pouvez faire juste un petit effort ? Enfin, quelle est la meilleure
on
façon
parle de
procéder ?
Pourcentage,
mais je pense que d'abord, il faut se renseigner sur le marché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec des chiffres qui sont aberrants et qui n'ont rien à voir avec la réalité du poste. Si vous estimez que le chiffre que vous annoncez, il est réel avec, un, vos compétences, votre expérience et la réalité du marché, alors il faut y aller.
Moi, il y a un truc qui marche bien, je trouve, c'est que l'employeur parle d'abord, qui donne le premier chiffre, on est d'accord, il ne faut jamais soit donner un premier chiffre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah bah, ça c'est sûr qu'en communication, celui qui parle le premier,
il
est un peu perdant.
C'est ça. On a une question, là, pour le coup, au 3921, notre répondeur, une question de Soraya, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Julia, je suis en train d'écouter votre émission et ça tombe bien parce que je suis en pleine recherche d'emploi en ce moment et donc j'enchaîne les entretiens. Mais quand on me demande, vous vous voyez où dans 5 ou 10 ans ? Bah, écoutez, je vous mens pas que je ne sais jamais quoi répondre à cette question. Vous auriez un conseil pour moi, s'il vous plaît ? Merci à vous, au revoir.
Bon Charlie, dans 5 ans, dans 10 ans, bah, on se voit où alors ?
On ne dit pas à votre place déjà, on ne dit pas ça.
Encore une fois, il faut, je pense, dire la vérité et il faut rassurer. Et donc, il faut laisser entendre des choses qui soient rassurantes pour l'employeur. Il faut bien comprendre que l'employeur, un entretien raté, c'est des milliers d'euros de perdus pour lui. Il n'a pas envie de rater cet entretien. Et donc, il faut être assez clair sur vos envies et en même temps, il faut aller dans le sens de ce qu'il a envie d'entendre un peu forcément, c'est un peu le jeu.
Oui, donc plutôt lui dire qu'on s'imagine dans la même branche, quoi.
Bien
et
sûr.
Pas, je pense que j'aurais tout foutu en l'air et je ferai un tour du monde.
Dans 5 ans, je m'envisage dans l'entreprise, épanoui, avec un nouveau poste. Voilà, ça c'est des belles réponses.
Ça. Aurélien sur Instagram, en parlant de tour du monde justement, est-ce qu'on a le droit, c'est sa question, est-ce qu'on a le droit à des petits mensonges lors d'un entretien d'embauche, genre j'ai un trou d'1 an dans mon CV car j'ai rien glandé pour être honnête, mais puis-je dire que j'ai fait le tour du monde, ça fait plus chic, non ? Est-ce que vous l'avez déjà fait, vous ?
Est-ce que vous me demandez si j'ai déjà menti à un entretien vous avez vu ma gueule d'ange. Est-ce que vous imaginez que je puisse dire ça et que je puisse le révéler aux milliards d'auditeurs d'Europe 1 ?
Si, moi je le vois parce que vous tortillez vos mains.
Oui, c'est vrai, je me suis gratté le nez aussi, ouais, vous avez raison.
Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour cette année blanche dans son CV
Je pense qu'une année autour du monde, ça se valorise. Et ça,
oui, non, mais sauf qu'il l'a pas fait.
Il a fait le tour du monde.
Il a glandé pendant un an.
Il a forcément fait des choses, il a peut-être regardé la télé, fait des jeux vidéo.
Il y a peut-être
des choses qu'il a. S'il a sorti des compétences, pourquoi pas ? On ne sait jamais.
Mais s'il a juste glandé, il vaut mieux pas le dire.
Ah, là, dans ces cas-là, vaut mieux pas le dire.
Dernière question de Jonathan sur Twitter. Vous avez parlé tout à l'heure, Charlie, du fait qu'un entretien, ça se prépare. Mais est-ce qu'un patron aussi doit préparer un entretien et comment ? Je suis chef d'une petite boîte depuis peu. Je dois embaucher quelqu'un. Je reçois 2 candidats et j'avoue que ça me stresse un peu de ne pas choisir le bon. C'est vrai que ça doit être stressant aussi pour le jeune patron. Là,
bien sûr.
C'est du temps mobilisé, tout ça.
C'est du temps et surtout la parole du dirigeant. On a encore fait des études là-dessus. Elle est clé et elle peut motiver une personne pour des mois, comme elle peut la démotiver aussi pour des années. Et donc, chaque mot du dirigeant va être pesé, analysé, et souvent d'ailleurs en entretien, on le voit, qu'est-ce qu'ils font les salariés ? Ils notent précisément ce qu'on dit le dirigeant. Ça prouve que chaque mot est mesuré, et donc ça se prépare du côté du dirigeant. Il faut faire attention à ce qu'on dit, et il faut être très nuancé.
Et il le prépare avec qui, un dirigeant ? Un copain dirigeant ?
Avec un copain dirigeant, ou avec des gens comme nous, et on les accompagne évidemment au quotidien, on les fait travailler, on les met en situation.
Bon Charlie, pour les plus stressés qui nous écoutent, qui se disent « Ok, j'ai bien noté tous les conseils de Charlie Clark, mais pour moi c'est très difficile, je suis un timide maladif, ça va être très compliqué, voire même je vais trembler, avoir des tics, j'en sais rien. » Est-ce qu'on a le droit de dire à ce futur employeur, à ce recruteur « Écoutez, je suis vraiment désolé, je suis extrêmement stressé, j'ai toutes les compétences, je vous promets, mais pour moi c'est un exercice très difficile. »
Je pense qu'encore une fois, un exercice de vérité, j'y suis favorable. Et c'est aussi le travail de l'employeur, du patron, de mettre la personne à l'aise et de fouiller, d'aller au-delà de ce vernis de stress pour essayer de voir si vraiment cette personne a les compétences. Et souvent, comme ils le font.
Oh ben, je trouve que c'est une excellente idée.
Hein. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir accepté de répondre à nos questions et à celles de nos auditeurs ce matin. Je pense que grâce à vos conseils, ceux qui cherchent un emploi ont désormais toutes les cartes en main pour au moins le réussir. L'entretien d'embauche, une étape très importante vers une nouvelle vie. Merci.
Oui, merci, Charlie. On va maintenant changer de sujet et parler d'une autre mission périlleuse, surtout pour les jeunes parents. Eh bien, bien nourrir nos enfants, les tout petits plus particulièrement. Comment se lancer dans l'aventure des premiers repas, bien réussir la diversification et leur éducation au goût. C'est notre dossier bien-être du jour.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Alors, les vrais premiers repas d'un bébé, ça peut être un casse-tête pour nous les parents. C'est même souvent source de stress quand on est face à son premier. On veut être certain qu'il ne lui manque aucune vitamine, qu'il ait tout ce dont il a besoin pour se développer au mieux. Mais parfois, c'est pas simple. Non. Il nous crache les légumes à la figure. Vous vous rappelez, Julia?
C'était l'enfer.
On l'a tous vécu. Alors, comment leur faire accepter? On va voir ça et bien d'autres aspects de l'alimentation des petits avec vous, Marie Ruffier-Bourdet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ergothérapeute spécialisée en pathologies digestives et alimentaires des enfants. Vous êtes également autrice du livre « Mes premiers repas avec plaisir et sans stress » paru aux éditions Marabout. Alors on le sait, hein, se nourrir, c'est évidemment une activité essentielle dans notre vie quotidienne en tant qu'adulte, hein, pour nous tous, mais ça l'est encore plus pour les plus jeunes. Pourquoi cela ?
Alors, c'est important pour nos plus jeunes parce que tout d'abord, ben, ça leur permet de grandir, grossir et surtout développer leur capacité au niveau du cerveau. Mais aussi, ça va créer tout le répertoire sensoriel alimentaire pour leur prochaine vie d'adulte.
Alors pourquoi, alors que c'est quelque chose de terriblement banal, hein, de s'alimenter, pourquoi nous, en tant que parents, nourrir notre bébé, ça devient hyper stressant ?
J'ai l'impression effectivement qu'il y a deux gros stress quand on devient parent, l'alimentation et le sommeil.
Ah oui, ça, c'est sûr.
L'alimentation, c'est la vie ou la mort de notre bébé dans notre tête de maman. Donc il faut qu'on y arrive, il faut qu'il mange. Et c'est vrai que quand il ne mange pas, quand les courbes de poids se cassent, ça devient terriblement angoissant. Et on ne sait pas trop vers qui se tourner. Et donc là, entraîne du stress qui va entraîner encore des repas qui vont être encore plus difficiles.
Alors vers qui se tourner? Parce qu'il y a plein de gens qui se tournent vers nous, par contre, quand on a ce genre de problème. La belle-mère, ouais, la maman, la tati, la copine. On a des conseils de tout le monde, c'est un enfer. Franchement, moi j'ai des souvenirs affreux, notamment du premier allaitement, où tout le monde y allait son conseil et c'était contradictoire avec le conseil de la précédente. Enfin, c'est qui la bonne personne vers qui se tourner? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une seule personne conseil, on va dire?
Vous avez vraiment pointé du doigt ce qui est compliqué pour les mamans et les papas aussi, hein. C'est d'avoir 1000 conseils qui sont basés sur des expériences personnelles. Moi, j'ai fait comme ça et ça a marché. Sauf que ben, toi, ce n'est pas mon bébé, ce n'est pas moi. Donc, il faut se tourner vers des professionnels de santé qui vont être formés en alimentation du tout petit. C'est un peu la croix à la bannière, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais écouter ces professionnels et puis surtout pouvoir avoir les bonnes informations parce qu'il y en a plein, des différentes sur les réseaux aussi.
Mais ce n'est pas forcément la belle-mère, hein.
Pas forcément.
Ok, à la naissance, notre bébé paraît fragile, mais vous, vous dites qu'il est pourtant un expert sensoriel. Comment c'est possible? Parce qu'on se dit que leur développement n'est pas parfaitement abouti.
Eh bien, si les sens y sont, à part la vue qui va maturer plus tard, c'est un expert sensoriel parce que tous les sens se sont développés dès les premiers mois de la vie intra-utérine. Et donc, notre bébé, quand il naît, c'est un expert sensoriel qui sait se diriger tout seul vers le téton de la maman pour téter. Donc oui, c'en est un.
Alors, on connaît tous les cinq sens, hein, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. Mais dans votre livre, vous ajoutez deux autres sens, le sens vestibulaire et le sens proprioceptif. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, ces deux sens, ils sont hyper importants. Le vestibulaire, c'est le mouvement. Vous savez, ce bébé que vous bercez pendant des heures pour l'autoréguler, pour l'endormir. Et la proprioception, c'est les câlins, c'est le portage, c'est la position de notre corps. Ces deux sens, ils sont déjà présents dès que le bébé est dans le ventre de la maman. Et notamment, il y a une question que je pose assez régulièrement aux mamans, c'est est-ce que vous avez été alitée ? Alitée parce que alitée, le bébé ne bouge plus forcément dans le ventre. Et la proprioception, c'est aussi toutes ces choses que le bébé va ressentir en poussant un petit peu. Vous savez, cette main que vous voyez apparaître, ce petit pied. Et bien lui, il va déjà se nourrir de plein d'informations sensorielles qui vont lui permettre après de se développer.
Et le fait que la maman ait été alitée, ça fait quoi pour le bébé ? C'est un bébé qui n'a pas été assez balancé, enfin, ça fait un enfant qui a des problèmes particulièrement?
Alors,
parfois,
problème, non, mais ça peut être un bébé qui va avoir des besoins autres, c'est-à-dire peut-être effectivement plus besoin d'être bercé, plus besoin d'être porté, mais c'est important de le savoir nous en tant que professionnels de santé.
Parce qu'ils ont besoin de ce mouvement pendant la grossesse. Exactement. Finalement c'est important pour leur développement. En fait, c'est ça.
Alors dès la naissance, notre enfant est capable d'avoir une alimentation autonome. Vous parlez même d'alimentation réflexe, ça veut dire dire quoi précisément ?
Eh ben, vous avez tous vu ce petit bébé où quand vous mettez le petit doigt dans la bouche, se met à téter. Il n'a pas le choix, c'est-à-dire que c'est un réflexe, au même titre que quand je mets mon petit doigt dans sa main, il ferme sa main. Ce qui lui permet en fait, parce qu'il doit passer d'une alimentation placentaire à une alimentation aérienne, et donc ça lui permet ce réflexe de pouvoir se nourrir pour grandir et grossir le temps d'apprendre à téter vers 4-5 mois de façon volontaire.
J'avais entendu parler d'expériences où justement on avait laissé des bébés sur le bas du ventre de la maman qui finalement, je crois, arrivent tout seuls à trouver le sein, hein, c'est ça ?
Exactement. Avec tous leurs sens qui sont affûtés, parce qu'ils sont des experts, et bien ils
s'orientent. Donc ils arrivent à bouger même, parce qu'ils ne marchent pas, enfin, on est
non,
d'accord.
Ils grimpent, avec la proprioception, avec la vision, parce que le mamelon...
Donc s'il n'y a aucune intervention...
Totalement.
C'est trop beau d'ailleurs, il y a des vidéos comme ça, on les voit grimper jusqu'au sein de leur mère, ils viennent de naître, c'est magnifique. Mais c'est primordial pour le nourrisson d'avoir ces réflexes, sinon il se passe quoi ?
Eh bien sinon on peut avoir des difficultés de succion, donc un bébé qui va se laisser mourir de faim en fait.
Ça existe ça ?
Oui, et malheureusement, un bébé qui n'arrive pas à téter, qui n'arrive pas à se nourrir et qui va falloir aider au niveau médical pour suppléer la succion qui n'est pas encore présente par exemple.
Et comment vous faites ça ?
Bah, on est dans des... prématurés, des bébés prématurés en fait qui n'ont pas ce réflexe-là, donc on a des bébés qui savent laper avant de savoir téter, donc un peu on met un petit verre et comme un petit chat en fait il va venir chercher le lait et donc on va attendre que ça mature, développer, solliciter en fait au niveau sensoriel pour développer ce réflexe.
Très bien, Marie Ruffier-Bourdet, on n'en a pas fini avec vous, on va continuer cette immersion dans l'assiette, voire même dans le biberon des tout-petits, on parlera aussi un peu d'allaitement et puis de la DME, savez-vous ce qu'est la diversification alimentaire menée par l'enfant, comment ça se pratique? Quels sont les avantages, les risques éventuels? On vous explique tout très vite, alors une seule chose à faire, restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, on prend soin surtout de l'alimentation des plus jeunes et on va même commencer par les tout petits bébés. On fait ce point avec vous, Marie Ruffier-Bourdet. Vous êtes ergothérapeute spécialisée en pathologie digestive et alimentaire des enfants. Vous êtes également autrice du livre Mes premiers repas avec plaisir et sans stress aux éditions Marabout. Alors on va voir comment se met en place l'alimentation d'un bébé. Et ça commence évidemment, bien sûr, souvent par le dilemme sein ou biberon. Est-ce qu'il y a une différence pour vous, spécialiste, pour la santé de l'enfant ? Vous privilégiez l'une des façons ou pas ?
Alors, évidemment qu'il y a une différence. On sait que le lait maternel est quand même très bon pour le développement de l'enfant. Après, il y a une différence aussi dans la succion du bébé. C'est-à-dire que la succion au sein est plus compliquée pour le bébé que la succion au biberon, notamment que les biberons choisissent souvent des tétines qui coulent un peu trop vite. Mais ceci étant dit, il n'y a pas de meilleur choix. Le meilleur choix, c'est la maman qui va le faire en fonction de ce qu'elle a envie. Est-ce qu'elle veut allaiter ? Est-ce qu'elle ne veut pas allaiter ? Est-ce qu'elle veut allaiter longtemps ? Pas longtemps ? Et en fonction de son choix, en fait, il faut la laisser justement prendre son chemin.
Ça, il n'y a que la maman, on est d'accord, parce que les papas participent au biberon, mais le sein, c'est elle qui doit décider, on ne doit pas la forcer à le faire.
Non, il ne faut pas la forcer, il ne faut pas non plus la culpabiliser de ne pas le faire. Enfin, que ce soit un biberon, un sein, il y a de l'amour, et ça...
Et il y a du lait, surtout.
Exactement.
Alors, c'est quoi le béaba de l'allaitement ? Il faut imposer un rythme de tétée, par exemple, ou ça ne se fait plus ? Moi, j'ai l'impression qu'on prend davantage, en ce moment, le sein à la demande, non ?
Oui, tout à fait. On sait que les 72 premières heures, le bébé, il faut qu'il soit un maximum avec la maman pour stimuler la lactation. Et que les 12 premières semaines, on va en fait proposer un allaitement au signe d'éveil du bébé. Ça veut dire qu'on n'attend pas qu'il crie, parce que s'il crie, il est déjà dans sa zone rouge. Et c'est compliqué de téter dans une zone rouge. On va juste attendre que quand il commence à s'étirer, ouvrir un petit peu la bouche, et ben là, on va le mettre au sein. Et même s'il a besoin de se calmer, de se réguler, on le met au sein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toutes les 3 heures, toutes les 2 heures où tu vas être une tétine. Non, pas du tout. Le bébé a besoin de téter et la maman a besoin que le bébé tète pour avoir une bonne lactation.
Donc ça, c'est toutes les 12 premières semaines, on va dire. Après, on aime bien quand même que ce soit un peu réglé parce qu'il faut dire ce qu'il y a, on n'a plus de vie, nous, les femmes, quand on est vraiment avec un bébé collé au sein toute la journée.
Ben, ça va dépendre des mamans aussi. Il y a des mamans qui vont dire, ben, moi, j'en peux plus, j'ai envie de le réguler. Puis d'autres mamans qui vont dire, moi, ça me va très bien comme ça. Vraiment, moi, j'écoute les mamans. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez besoin ? Quel est votre choix ? Quel est votre besoin ? Et après, on va les accompagner pour répondre à ce besoin.
Et est-ce que c'est normal ou obligatoire d'avoir mal quand on allaite son enfant ?
il faut surtout pas avoir mal quand on allaite son enfant. Avoir mal quand on allaite son enfant, ça veut dire que soit le bébé a une mauvaise position, a une mauvaise succion, positionne mal l'élève, peut avoir un frein restrictif, et là, il faut aller consulter quelqu'un et pas rester avec sa douleur ou les crevasses ou des choses comme ça qui vont amener un arrêt de l'allaitement.
Donc si pendant la tétée, pendant la succion du bébé, on a mal, c'est pas du tout normal, hein, vraiment. Il faut consulter quelqu'un pour repositionner.
Non, on entendait, oui, il faut brosser les tétons pour les préparer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Vous faites rien, surtout pas de torture, mesdames, attention. Non. Est-ce que ce que la maman mange durant cet allaitement a une importance pour la qualité du lait maternel ou pas? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a accouché, on a eu suffisamment de restrictions pendant la grossesse, on a tendance à se dire, bon, maintenant, je mange ce que je veux.
Alors, le corps est bien fait, parce que du coup, le lait, c'est un nutriment qui sera toujours adapté à l'âge du bébé. Et surtout, il faut aussi que les mamans entendent qu'elles ont, dans la plupart du temps, toujours du lait, toujours assez de lait. Seuls 1% des mamans n'ont pas assez de lait. Oui. Donc dire vous pouvez pas allaiter parce que vous avez pas de lait,
c'est faux en fait. C'est pas ça le problème dans ces cas-là. Mmh. Alors pour celles qui choisissent de donner plutôt le biberon, franchement quand on regarde la quantité de lait différent dans les rayons de supermarché, ça donne vraiment le vertige. Comment on choisit? Est-ce qu'il y a de meilleurs laits que d'autres et surtout comment faire la différence?
Alors, les laits, ça c'est vraiment médical. Donc c'est le médecin qui va du coup apporter l'information par rapport à ça. Par contre, il y a aussi une multitude de tétines, de formes, de biberons. Et quand on est devant ce rayon, en fait, on se dit, mais lequel je vais prendre? Alors il y a des marques où du coup, on va prendre les premières qui arrivent parce qu'ils sont bien placés.
Mais surtout qu'ils se disent tous révolutionnaires, la nouvelle tétine qui est comme le sein. Enfin, c'est plus du coup, ils ont tous le même packaging.
Il
n'y
aura aucune tétine qui remplace le sein, ça c'est sûr. Après, il y a aussi une désinformation sur la vitesse des tétines. Le bébé grandit, on va augmenter la vitesse de la tétine, alors qu'il faudrait diminuer cette vitesse, parce que le bébé est un expert. C'est-à-dire que quand vous faites de la muscu, vous ne faites pas 100 abdos en premier et 50 abdos au bout de 6 mois. Vous faites le contraire.
Donc on les gave, en fait, quelque part, en accélérant. Enfin, c'est vrai qu'on ouvre l'ouverture du biberon en grandissant. Exactement. On passe la tétine 1, 2, 3, en général des gouttes. Là, c'est des petites gouttes qui montent la vitesse. Et en fait, il faudrait rétrécir parce qu'il devient plus musclé de la bouche. Mais il est capable d'être plus
c'est
fort.
C'est un muscle, hein, donc il est plus fort, plus expert. Donc il ne faudrait pas lui faciliter la vie. Il faudrait au contraire continuer à développer ses capacités et ses muscles.
Donc quelque part, on peut rester avec la même tétine, enfin le même niveau de tétine. Après, si elle est abîmée, vous la changez.
Voilà, c'est ça.
Tout le long de l'allaitement au biberon, quoi. Après le biberon ou le sein, on veut toujours, évidemment, parce que ça on nous explique qu'il faut le faire, faire le raw au bébé. Pourquoi c'est si important et est-ce que c'est vraiment obligatoire?
Alors, c'est pas obligatoire, ça va dépendre des bébés. Son besoin au bébé et surtout de la façon dont on donne le biberon. On a tendance à donner le biberon position verticale du biberon et le lait coule, du coup. Donc le bébé, c'est un peu comme un geyser qui lui arrive dans la bouche. Si on redresse le biberon, on le met à l'horizontale, que le bébé fait les pauses, que la tétine n'est pas remplie de lait. A contrario, on pense qu'il faut la remplir de lait pour qu'il y ait moins d'air.
De l'air.
Ouais. Non, mais le bébé, en fait, dans cette position, il fait une alimentation autonome, il fait ses pauses, il reprend, il régule, plus, moins. Et du coup, on a moins de problèmes aussi avec les raux.
Ah, d'accord. Mais il y a des bons rôteurs. Il y a des enfants, par contre, chez qui il faut
les relever et paf, moi j'en avais un comme ça, direct. Et l'autre, par contre, il fallait des heures
à tapoter dans le dos pour que ça sorte. Est-ce qu'il y a des astuces pour l'aider à faire un raux plus vite, le bébé?
Alors, il y a des très bons rôteurs, mais il y a aussi... alors, il n'y a pas forcément d'astuces, mais on peut faire attention, notamment quand on a un bébé qui a beaucoup de reflux. Mmh. Donc, ça va remonter. C'est pas mettre l'estomac au niveau de l'épaule, parce qu'on va compresser, en fait, l'estomac.
Mais zut, c'est ce que je faisais, moi. Je crois que je le mettais comme ça.
Donc, on va le monter un tout petit peu plus haut, en fait, pour que l'estomac soit libéré. Parce que si je compresse l'estomac, en fait, le lait remonte. Ouais. Et au lieu d'avoir un raw simple, je vais avoir un raw avec du lait. Et donc, j'augmente la régurgitation du bébé.
Donc, on le monte un peu plus haut sur l'épaule, le bébé, et pas comme... Exactement. Pas contre nous, avec juste la tête qui dépasse, il faut qu'il y ait un petit peu le buste du bébé qui dépasse aussi de l'épaule.
Totalement. C'est ça.
Alors, à partir de quel âge, donc, on va passer à l'alimentation un peu plus solide? À partir de quel âge, on peut commencer à proposer une alimentation à la cuillère? Parce que là aussi, j'ai l'impression que les règles ont de multiples fois changé. À une époque, c'était à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois. Enfin, maintenant, il y en a même certains, on entend parfois à 2 mois et demi, 3 mois. Enfin, quel âge on commence la diversification alimentaire?
Alors, on commence entre 4 et 6 mois révolus. Alors, 4 mois révolus, ça veut dire quand le bébé rentre dans son 5e mois. C'est une erreur qui est fait couramment, c'est-à-dire dès que bébé 4 mois, tac, je commence.
Donc
la
diversification. Donc on commence trop tôt presque un peu.
On commence un peu trop tôt, sachant que bébé n'en a pas forcément besoin. Par contre, on sait maintenant que proposer les allergènes entre 4 et 6 mois permet en fait au bébé d'avoir moins de risques d'allergie derrière.
Avant, on attendait beaucoup plus longtemps chez les familles d'allergiques. Et maintenant, au contraire, on dit le plus tôt, c'est le mieux.
Exactement.
Pour quoi? Pour les légumes, genre les cacahuètes? Enfin, les cacahuètes, je dis pas.
Cacahuètes, enfin, tout ce qui va être, en fait, les arachides, tout ce qui va être aussi les fraises.
Je dis cacahuètes, on donne pas des cacahuètes à un bébé,
évidemment. Merci Mélanie Gomez de ce bon conseil.
Non, mais par contre, on peut mettre simplement un petit peu de beurre de cacahuète dans la purée. préparer pour donner du goût et en plus on va proposer l'allergène.
Dans les familles d'allergiques, ouais. Encore une fois.
Mais exactement. J'imagine que c'est quand même très dépendant de chaque enfant. Comment on peut repérer que notre bébé est prêt à la diversification alimentaire ?
Alors, il y aura un attrait. C'est-à-dire que le bébé qui est prêt, il va commencer à s'intéresser un petit peu, nous, ce qu'on met en bouche, essayer de choper la cuillère, choper l'aliment qui passe. Et là, on va sentir qu'il est prêt. Un bébé, par contre, qui n'est pas prêt, c'est un bébé qui va être plutôt sensible, avoir des réflexes nauséeux qui vont être encore trop présents et qui nous montrent, en fait, qu'il n'est pas encore prêt à commencer.
Donc là, on peut attendre une semaine, deux semaines, puis chacun, ouais. On n'est pas
une date. Oui, il y a une date.
Non. Alors, il faut quand même commencer à 6 mois. Il faut commencer à introduire les aliments. Parce que la phase sensible, c'est 6 et 12 mois, puisque en fait, le bébé va développer son panel alimentaire à ce moment-là, et après, il passe dans une autre phase, c'est le moteur.
Donc, quand il est prêt, mais pas trop tard non plus, c'est ça le message.
Alors, si on fait un tour dans les rayons de puériculture, là aussi, on a dit tout à l'heure, des laits, il y en a des tas, des biberons et des tétines, il y en a des tas, mais des cuillères aussi, il y en a des tas de différentes. Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que bon, après tout, on a aussi des cuillères à la maison. Hein. Ouais. Est-ce qu'il faut acheter un outil spécifique?
Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de manger avec une louche? C'est un peu compliqué.
C'est une bonne image. Ouais.
Pourquoi c'est une louche pour l'enfant, la petite cuillère?
En règle générale, si vous baladez dans les rayons, ils sont très larges, très profondes, et donc le bébé, il n'a pas la capacité d'aller chercher. Et surtout, on en met beaucoup, du coup, dedans. Beaucoup trop, en fait, pour le bébé. Donc, il faut choisir des petites cuillères, fines, plates, pour que le bébé n'en ait pas trop. C'est-à-dire qu'il faut se dire que la diversification, ce n'est pas donner à manger à bébé, c'est le faire découvrir un aliment. Donc même s'il prend un tout petit peu, ce n'est pas grave.
C'est déjà pas mal. Et s'il ferme la bouche dès l'apparition de la cuillère, on fait quoi?
Alors, est-ce que déjà, il est copain avec la cuillère tout seul? C'est-à-dire que souvent, on sort la cuillère quand on commence l'alimentation. C'est-à-dire on se dit, allez, on commence, je lui donne la cuillère, je trempe et je lui propose. Sauf que le bébé, en fait, il ne connaît pas cet outil. Donc, il faut déjà qu'il soit copain-copain avec cet outil et qu'il la mette sans rien dedans.
On enlève Sophie la girafe et on lui file la cuillère pour jouer, en fait.
Et Sophie la girafe, elle est bien aussi pour développer la petite bouche de bébé.
D'accord, mais ça, c'est une tellement bonne idée. Moi, je me souviens que mon fils, il fermait la bouche comme ça, il faisait non avec la tête. Et vous savez ce que je faisais? J'ai insisté. C'est mal. Hein.
C'est pas mal.
Je ne savais pas, moi.
Bah oui, mais c'est pas mal. Mais on est maman et on essaye.
Il mange bien aujourd'hui, tout va bien.
Bon, maintenant, si vous, il dévore.
Bon, ça va
alors. Tout roule. Alors d'ailleurs, pour lui donner à manger, est-ce qu'il faut mettre vraiment son enfant en position assise? Parce que moi, j'ai vu des chaises hautes là aujourd'hui, un peu transat, qui ont l'air d'être penchées. C'est pas dangereux de mettre son enfant. Enfin, est-ce qu'il faut attendre qu'il tienne debout tout seul d'ailleurs, ou est-ce que même les enfants qui tiennent à peine debout peuvent déjà, avec du soutien, des coussins, je ne sais pas, manger solide?
Alors pour les purées, c'est pas grave. Ça va.
Tant que c'est lisse, quoi, il n'y a pas de souci.
Tant que c'est lisse, c'est pas grave. Par contre, au niveau des morceaux, si. Il faut que le bébé tienne assis tout seul. Donc, ce n'est pas s'asseoir tout seul parce que ce n'est pas la même âge dans le stade de développement de l'enfant. Donc, à partir de 6 mois environ, hein, mais on ne panique pas si son bébé à 6 mois ne tient pas assis. Mais à partir de 6 mois, on le met dans une chaise haute. Il faut surtout qu'il ait un appui au niveau des pieds pour se dégager. C'est-à-dire que s'il y a un morceau qu'il n'arrive pas à gérer, il y a un réflexe nauséeux qui s'appelle le réflexe nauséeux de timing qui va lui permettre de faire ressortir en fait le morceau.
Donc, l'appui-pied, c'est important.
C'est hyper important et il y en a très peu en fait.
Bah oui, j'étais en train de réaliser, je crois que j'en avais pas.
Mon pupille à mon époque.
Et la méthode de la DME, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et d'où ça vient?
Alors la DME, ça vient l'Amérique du Nord. C'est la diversification menée par l'enfant. Et en fait, c'est de proposer à l'enfant des morceaux après l'alimentation lactée. Donc ça veut dire, dès qu'il tient assis, on va lui proposer des morceaux qu'il va mettre lui-même dans la bouche.
Allez, tiens ta carotte.
Voilà.
Mais on ne donne pas une carotte entière, on donne des morceaux de quelle taille?
Et surtout, on donne des morceaux. Moi, je parle du stade lézard, du stade croco et du stade de la vache. Le stade lézard, c'est quand le bébé écrase. Donc, il faut des morceaux qui sont mous. C'est-à-dire que quand vous les prenez entre le pouce et l'index, vous pouvez les écraser. Et si ce n'est pas le cas, bébé ne peut pas encore les gérer au début.
D'accord. Et quels sont les bienfaits démontrés de la DME? Parce que c'est très à la mode aujourd'hui, mais est-ce que ça a vraiment un avantage? Ou est-ce qu'après tout, on continue à donner son enfant à manger à la cuillère?
Alors, il n'y a pas encore d'études claires là-dessus qui nous permettent de dire la DME, c'est formidable et c'est le meilleur moyen. Ce qu'on sait, c'est par contre qu'il faut introduire les aliments en morceaux solides à partir de 9 mois. Ça, on le sait, que pour l'acceptation après des fruits et légumes, ça va l'améliorer. La DME, c'est bien, mais attention, la DME, c'est aussi proposer des purées, des smoothies, des soupes. C'est pas que des morceaux. Parce que des fois, on tombe dans le truc à se dire, je donne que des morceaux parce que sinon, il va s'étouffer si je donne les deux. Non, bébé, c'est un expert sensoriel, il peut manger une purée et des saucisses.
Et vous dites que pour faire découvrir un aliment, il faut prendre un tout petit morceau, même une miette, plutôt qu'un gros. Pourquoi?
Alors, est-ce que vous avez un aliment que vous détestez là?
Ouais.
Vous allez y penser très fort et vous imaginez en fait mettre un énorme morceau ou en entier dans votre bouche.
J'ai une andouillette géante devant les yeux.
Vous aimez pas ça?
Donc visuellement, vous cachez vos yeux. Alors que si je vous mets une miette, ça ressemble déjà plus à ce que vous n'aimez pas. D'accord, c'est une miette.
Ah, oui.
Au niveau de l'impact sensoriel, il est quasiment nul. C'est-à-dire que votre système sensoriel ne le détecte pas. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de mâcher longtemps. Vous pouvez l'avaler avec la salive. Mais quand je dis une miette, c'est vraiment une miette.
Très bien. Oui. Ben, la miette, on commencera par des miettes d'andouillette. Alors, merci beaucoup, Marie Ruffier-Bourdet. Merci pour cet éclairage sur l'alimentation des 0-2 ans. Merci de nous avoir dévoilé tous vos trucs et astuces pour que manger ne devienne qu'un moment de plaisir pour nos petits.
Oui, merci encore à vous. On va passer maintenant à l'assiette des grands. À présent, moi, ça m'a donné faim de parler de tous ces petits plats de bébé. D'ailleurs, j'ai mangé les petits pots, moi j'adorais ça. Bon, alors ça tombe à pic puisqu'on va démarrer notre séquence tendance. Il y aura d'abord la chronique gastronomie avec le chef Abdel Alaoui. Il va nous faire découvrir le pain, ou plutôt les pains du monde entier. Et puis ensuite, on va écouter les conseils beauté de notre expert, le docteur Aurène Marco, pour avoir un décolleté parfait. Et enfin, il y aura aussi les bonnes résolutions sportives de notre coach Jean-Marc Delorme. Alors bon, lui, il assure toute l'année de ce côté-là, mais il va nous aider cette fois à la tenir en 2022. Cette promesse de bouger plus, il nous donne toutes ses astuces dans quelques toutes petites minutes sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous avec Mélanie Gomez tous les jours. Alors tout de suite, on va démarrer notre séquence tendance et comme vous le savez, on commence toujours par la gastronomie à cette heure-là. Et aujourd'hui, c'est le chef Abdel Alaoui qui va passer pour nous au fourneau. Et j'imagine que vous vous êtes levé tôt, Abdel, ce matin pour pétrir toutes ces miches.
Bah oui, comme tous les boulangers à 4h du matin.
C'était pas désagréable.
C'est pas désagréable.
Il y en a partout. Ils viennent de partout, ceux-là.
Ils viennent de partout. Vous allez voir, découvrir des pains du monde entier.
Allez, génial. Ensuite, ce sera à votre tour, docteur Aurène Marco, de nous éclairer, non pas sur les miches, mais d'une certaine façon.
Si. On n'est pas très loin.
J'essaie de trouver une transition. Je me suis dit, elle donne les miches. Ah ben, on va parler de décolleté.
Mais pas forcément des miches.
Bon, très bien.
Et enfin, on va terminer ce tour de table avec notre coach préféré, Jean-Marc Delorme. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on n'est que le 4 janvier. Vous n'allez pas nous torturer trop fort, j'espère. Parce que moi, quand j'attaque trop fort, je lâche trop vite. Et la neige, elle est trop molle. Et on veut tout. Ce qu'on veut, nous, c'est tenir le rythme toute l'année.
Mais oui, c'est pour les bonnes résolutions. On a décidé de se remettre au sport. Bah, c'est maintenant. Je vais vous dire comment le faire et comment rester dans cette motivation.
Exactement. Eh bien, merci Jean-Marc. Ce sera avec vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, on passe en cuisine et ça va pétrir dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Mon cher Abdel Alaoui, très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Je suis certaine que grâce à vous, 2002 sera aussi appétissante, au moins du point de vue gustatif, que 2021. Hein. Donc on va parler de pain, de toute façon c'est tout ce qui nous reste, hein, la bonne chair. Donc le pain, c'est à vous, il y en a de toutes sortes, là je vois sur
toutes
la table.
Alors je suppose que tout le monde a pris ses résolutions, moi pour 2022, la mienne c'est de manger encore plus de pain.
Oh, la chance.
Un pain comme vous n'avez jamais vu. Un pain qui sera si bon, vous ne pourrez plus dire « j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain ». Vous direz « j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage ». Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci.
Bravo, alors, Rému.
On a reconnu la femme du boulanger, ce petit passage de Rému. On est d'accord, rien de tel que d'entamer sa baguette encore chaude quand on sort de la boulangerie. Hein, sentir sa croûte croustillante, goûter sa mie tendre et pleine d'arômes, l'arôme de la noisette grillée, l'arôme du beurre, l'arôme du brûlé. Aliment indispensable, sujet inépuisable. Le pain a pris place dans nos vies, les amis. Le pain, c'est bon et ça se partage avec tout le monde. Le pain, c'est l'amour, le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la survie. Le pain est aussi politique. Regardez la meilleure baguette parisienne. Elle est distribuée à l'Élysée tous les ans.
Mais vous avez des chiffres, Abdel, au sujet du pain?
Il y a 320 baguettes de pain qui sont consommées et produites chaque seconde en France. Vous le savez,
chez Julia Vignali?
Oui,
c'est moi qui les pétris.
Soit 10 milliards de baguettes par an. Chaque Français consomme 120 grammes de pain par jour, soit 3 fois moins qu'en 1950. Oui, on mange moins de pain.
Ah ouais.
Alors parce que la qualité effectivement du blé et avec tous les plats qui se mangent effectivement sans pain, on mange moins de pain. Il existe 32 000 boulangeries en France. Oui, je les ai comptées.
On mange encore beaucoup de pain en France, Abdel, ou pas?
Alors en 10 ans, le prix de la baguette a augmenté déjà de près de 24%. Je sais pas chez vous, elle a combien la baguette?
1,10€. Je prends une baguette un peu spéciale.
Les gens changent et choisissent les quartiers suivant le prix de la baguette quand même. 95% des Français mangent du pain au cours du déjeuner et du dîner. Il existe une journée mondiale du pain. Elle est célébrée le lundi 16 octobre. Et en 2018, Emmanuel Macron souhaitait inscrire la baguette française au patrimoine mondial de l'humanité.
Carrément.
Ouais. Alors la France n'est pourtant pas que la neuvième pays en consommateur de pain. Derrière la Turquie, l'Algérie, la Serbie, la Bulgarie, l'Allemagne, Chypre, la Grèce et les États-Unis. Alors bien sûr, les recettes varient d'un pays et d'une tradition à l'autre. En tout cas, ça donne envie de voyager et d'aller goûter.
Alors, quelles sont les différentes variétés de pain dans le monde? Parce que j'en vois plein là autour de vous, Abdel.
Alors, on a ce qu'on appelle les feuilles de pain. C'est des feuilles de briques. Il y a le pain azim, vous connaissez, la galette bretonne. Après, on a les pains garnis ou fourrés, genre la pizza, la pissaladière, le manakish libanais ou jordanien. C'est un pain assez gras avec du thym par-dessus.
J'adore celui-là.
Les pains levés à croûte croustillante. La baguette, alors évidemment. Alors, moi, je suis parti chercher chez mon ami Racine à Boulogne-Billancourt. Il est venu vers Victor Hugo, il fait une baguette au chanvre.
Ah, c'est j'adore excellent. Le chanvre.
Vous voulez goûter, je vous donne un petit morceau. Allez, hop, donnez, hop. Voilà, vous allez goûter.
Un petit morceau.
Un petit morceau, il m'a donné la moitié de la baguette.
Il fait plein de bains comme ça traditionnels. Et surtout, il a un pétrin naturel avec 100% bio.
Comment c'est au chanvre alors, Julia?
C'est bon, hein?
Bah attendez, je viens de le mettre dans ma bouche, je vous le dis dans 10 secondes.
Ok, alors continuez Abdel.
on a les pains secs. En Suède, on a le knackbrød, le carazo, sord, ou l'espadisimo grec. C'est des pains qui sont cuits deux fois pour bien les sécher. On a les pains noirs, en général, on les retrouve dans les pays où le blé a du mal à s'acclimater, en Europe du Nord par exemple. Et on a les pains qui sont cuits au four, la tortilla, le bagel, le pain au vietnamien.
Je voudrais faire un point sur le pain au chanvre qui est délicieux. Voilà,
c'est bon,
je vous le dis. Délicieux. Voilà.
Et vous sentez bien, ça va tout...
mais non, mais il n'y a pas de...
Il n'y a pas de CBD, il n'y a rien. C'est pas du cannabis. Hein, c'est... Ouais, et il y a un petit goût comme ça d'antan, un petit goût ancien. Alors, il y a les pains de mie, il y a les pains plats, le badbout qui est là, juste là, regardez. Ça, c'est le pain marocain, le badbout qui est juste là.
Ça, c'est hyper bon.
Après, on a les msemen. Alors, ça, c'est une petite galette marocaine.
Ah, ça, je veux bien.
Plein de gras, plein d'huile qu'on cuit sur une plancha.
Oh là là. On peut le manger comme ça à sec ou pas?
Allez-y, il y a 3000 calories par bouchée. Après, on n'oublie pas les pains rituels, le kouglof, le panettone. En général, évidemment, plein de gras, plein de sucre. Alors, je vais vous faire évidemment découvrir une recette hyper simple d'un pain indien qu'on appelle le chapati. Est-ce que vous connaissez le chapati?
Mais oui.
Ah, pas du tout.
Alors ça se prépare vraiment en 15 c'est bon minutes. Ça. Il vous faut 300 g de farine, du sel, 50 g de beurre fondu ou du ghee. Le ghee, c'est un beurre rance. Du zaatar et 10 centilitres d'eau tiède. On dépose la farine comme ça sur son plot de travail. On fait un petit puits au milieu. On rajoute le beurre fondu, l'eau, le sel, le zaatar. On pétrit bien de sorte à former une grosse boule. Après, vous divisez cette grosse boule en petites boules. On vient les étaler très fines, vraiment un demi centimètre comme ça de d'épaisseur, et on va les cuire dans une poêle très chaude, une minute de chaque côté, et on tartine de beurre et de miel, et c'est une tuerie.
Il y a donc déjà du beurre dedans, et on remet du beurre dessus.
Bah oui, c'est bon le pain, c'est gras.
C'est pas mal.
Et,
hein.
Et c'est quoi là, les autres pains?
Alors là, c'est un pain de mie qui vient toujours de la boulangerie Racine.
Merci, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est
là, on a le muffin, vous connaissez le muffin?
Oui.
Au blé complet. Ça. Là, c'est ce qu'on disait, les pains qui ne sont pas cuits au four. Donc ça, c'est la tortilla, vous la connaissez?
Moi, j'aime moins ça.
Voilà. Bah, c'est pour faire des tacos, ça.
Ouais. La référence, tortilla, tacos. Et on a les pains noirs, les pains comme ça, qui sont pas forcément levés, qu'on retrouve beaucoup dans les pays scandinaves.
C'est lequel votre préféré à vous, Abdel?
Moi, c'est le naan indien. J'adore ça.
Ouais. Mais vous le travaillez comment? Vous mettez quoi dedans?
Bah, pareil, c'est à peu près la même recette que le chapati. Donc c'est que de la farine, un peu de beurre, un peu de sel, un peu d'eau. On pétrit bien. Et en fait, quand on va faire chauffer sa poêle très chaude, on va poser cette petite galette dans la poêle et elle va souffler automatiquement. Après, il y a le cheese naan.
Docteur Aurel Marco, je vous ai entendu faire à chaque pain qui passait.
Très envie, mais je me demandais quel était le pain le moins lourd, en fait, finalement, le plus diététique.
J'ai l'impression que c'est la tortilla quand même. C'est une farine de maïs.
Ouais, après, c'est un goût de papier.
Allez,
envoie
la tortilla. C'est ça la tortilla?
C'est celle-ci.
Et ça, c'est quoi? Parce que j'aime beaucoup.
C'est la msemen.
Celle qui glisse.
Celle-là, c'est 3000 calories.
C'est ce qu'on mange.
C'est délicieux.
C'est hyper bon ça.
Jean-Marc, est-ce que vous avez un petit chouchou là, dans tout ce qui nous a été présenté?
Alors, moi, je fais toujours attention à ce que je mange, mais j'ai un péché mignon, c'est quand même le pain. J'adore tous les pains, c'est terrible.
La baguette au chanvre là, c'est une tuerie. Franchement, elle est hyper bonne.
Et l'indice glycémique de ce genre de choses, c'est énorme ou pas?
Tu n'as rien du tout. Moi, je mange.
Jean-Marc, vous avez une idée de l'index glycémique de tout ça? Oui, c'est.
J'ai aucune idée.
Je préfère pas le savoir.
Le mieux, c'est de rajouter du beurre dessus.
Bien sûr, et de le faire un peu griller, parce que moi ce que j'aime bien, c'est quand la baguette elle est bien grillée et juste un peu avec du beurre salé fondu.
Et le matin, moi, petit déj avec de l'huile d'olive et un peu de sel dessus, et je fais ma petite baguette bien chaude dessus.
On peut venir faire apprendre le petit déj chez
vous,
Abdel.
La maison est grande.
Bon, merci beaucoup, Abdel, pour ce tour du monde du pain. Faute de pouvoir vraiment voyager, au moins on a découvert dans l'assiette ce qui se fait ailleurs et ça fait vraiment du bien. merci. On revient dans quelques instants avec d'autres tendances, les conseils beauté du docteur Aurel Marco, ce qui se fait de mieux et les dernières techniques pour un décolleté au top. Et puis, ce qui est toujours tendance en 2022, comme en 2021, 2020, 2019, 2018, c'est de se remettre vraiment au sport. Alors cette fois, c'est la bonne. On va y arriver grâce au super coaching que nous a concocté Jean-Marc Delorme. Que du bon, du beau à venir. Et c'est normal, vous êtes toujours sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre bande de chroniqueurs toujours autour de la table, que des hommes aujourd'hui, et quels hommes, le premier Abdel.
Quels hommes,
en tout cas ils sont beaux. Hein.
Bref,
que des hommes de qualité, on va dire. Abdel nous a déjà bien régalé avec ses pains venus d'ailleurs, qu'on vous postera bien sûr sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont aussi magnifiques que bons, donc on va vous montrer tout ça avec les petites légendes qui vont bien pour vous expliquer à quoi correspond chaque pain, et à présent c'est à un autre homme qui va nous émerveiller. C'est à vous, docteur Aurel Marco. Faites-nous un petit tour de magie, enfin surtout un décolleté de rêve.
Eh ben, je me demandais si vous preniez soin de votre décolleté, les filles comme les hommes. Non, est-ce qu'on fait un petit peu attention? Est-ce que quand vous allez au soleil, vous mettez de la crème? Est-ce que vous hydratez correctement? Parce que on peut vieillir du décolleté.
Il faut mettre de la crème hydratante sur les seins.
Alors,
moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait traiter son décolleté comme on traite son visage.
Exactement, c'est-à-dire que souvent.
Avec respect.
Non, mais je ne sais pas à quoi je vais ressembler dans 6 ans.
Souvent, on prend beaucoup soin de son visage et on oublie deux parties du corps qui sont quand même découvertes.
Les seins et les pieds.
Non, mais les mains, en tout cas, très important. C'est vrai que les mains, elles sont toujours découvertes en hiver ou en été. Et puis, souvent, on a le cou et le début du décolleté qui est découvert. Donc, on peut vieillir effectivement du décolleté et c'est souvent une demande qui revient en consultation. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai des petits plis, par exemple, niveau du décolleté.
Ça commence, moi, je commence à en avoir trois.
C'est incroyable.
Mais ça me rappelle ma mère en même temps.
Voilà.
C'est,
alors, Julia, est-ce que vous savez d'où ça vient, ces petits plis?
De sa mère.
Non, ça vient pas de votre maman, ça vient aussi de la façon dont vous dormez. Ah oui. Est-ce que vous dormez sur le côté, un petit peu recroquevillé?
Je me plisse.
Voilà, et ben en fait, c'est la cause numéro un de ces petits plis radiaires, c'est la façon dont on dort. Donc c'est effectivement le matin au réveil, c'est très marqué, puis ça se détend petit à petit.
Donc il faut dormir sur le dos pour avoir un décolleté pas frippé.
Effectivement, pour pas se fripper le décolleté, il faut essayer de dormir le plus possible sur le dos et de manière détendue. Donc,
mais quand malgré tout on est frippé parce qu'on a trop dormi sur le côté et que c'est vraiment trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire
pour c'est pas l'âge, on est d'accord. C'est juste de dormir sur le côté.
Évidemment, c'est pas l'âge.
Bon, on dort sur le dos.
On dort sur le dos. Donc ça, c'est une mesure préventive, effectivement, pour éviter leur apparition. Par contre, quand c'est apparu, ces petits plis radiaires, il n'y a pas de traitement miracle. On peut soit hydrater en appliquant des crèmes, soit hydrater en injectant des skin boosters, vous savez, l'hydratant spécial qu'on met un petit peu dans... On peut le mettre partout dans le décolleté, des petites injections
c'est
qui
génial.
Vont hydrater et limiter les petits plis. Et grande nouveauté, parce que ça, on en parlera dans le futur, maintenant, on fait des injections de Botox très, 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 très diluées.
Ouais.
Qui permettent de diminuer les petites ridules sur de grandes surfaces.
Donc sur là entre les seins, mais
c'est nouveau,
incroyable.
Ça va prendre de l'ampleur dans le futur et donc c'est pour une même unité, on va diluer énormément le produit.
Pourquoi il faut le diluer par rapport à ce qu'on mettrait dans le front, par exemple?
Parce que dans le front, le muscle est très épais et là, on a envie effectivement de traiter uniquement la petite bande musculaire superficielle et donc comme la surface est grande, on peut pas injecter trop de toxines. On dilue le produit et ça permet de détendre.
Et
mieux.
Du coup, ils bougent plus, ils sont paralysés. Non.
Non, justement, ça détend uniquement. Quand on met des petites doses, il n'y a pas cette notion en fait, de blocage. C'est vraiment une notion de détente musculaire. D'accord. Et ça permet d'améliorer le décolleté.
Mais ça, vous dites c'est dans le futur, mais on le fait déjà un petit peu?
On le fait dans certains pays, c'est d'accord. Pas encore arrivé en France, mais les études sont en cours pour vérifier un petit peu et donner l'autorisation.
On avait les pains d'ailleurs et les techniques d'ailleurs aussi, esthétiques.
Mais il y a le relâchement du thorax aussi.
Exactement.
Ça existe,
alors, du coup, on peut aussi vieillir parce qu'on a perdu du poids ou alors tout simplement avec l'âge, ce qui retient notre peau du thorax sur notre squelette ou sur nos muscles se détend. Il y a des septas, ce sont des petites membranes qui maintiennent et ça peut relâcher. Donc quand on a ce relâchement, il y a deux façons de faire. Soit on reprend le sport, effectivement, on redonne un peu d'ampleur aux pectoraux et ça permet de redynamiser le décolleté.
On peut vraiment confirmer le décolleté?
Oui, effectivement. En prenant un petit peu de volume, on arrive à combler. Alors c'est pas évidemment
pas magique,
comme ça pourrait
bien
être avec le docteur Marco, mais on aide en tout cas.
Et on peut également réinjecter un petit peu de graisse, donc on fait un peu de lipofilling. Et pareil, le lipofilling, c'est-à-dire d'injecter un petit peu de gras dans l'espace entre la peau et les fascias musculaires, c'est-à-dire la zone en dessous en profondeur, permettent d'améliorer l'atrophicité de la peau.
Je reviens, vous avez parlé donc des skin boosters, hein, qui est une technique assez à la mode. On en parlait déjà sur le visage il y a quelques semaines, mais là vous avez dit donc skin booster pour la poitrine, pour le décolleté. Qu'est-ce qu'on injecte avec un skin booster? Ça se passe comment?
Une séance c'est de l'acide hyaluronique. On injecte en fonction de la taille du décolleté, de la zone à traiter, 2 ou 3 ampoules en nappage, c'est-à-dire qu'on fait quelques petits points en fait de mésothérapie un peu partout. C'est pas très agréable.
Mésothérapie, c'est-à-dire c'est vraiment en surface.
C'est-à-dire qu'on injecte vraiment dans la superficie, dans la couche profonde de la peau, c'est-à-dire qui s'appelle le derme. L'hypoderme, c'est la zone où on injecterait la graisse, c'est-à-dire la zone graisseuse. Mm-hmm. Mais en tout cas, juste au-dessus, vous avez le derme et c'est ça qui permet d'hydrater.
Et vous en pensez quoi, docteur, de la radiofréquence pour cette zone du décolleté?
La radiofréquence, je trouve que ça marche très bien, mais le souci que j'ai avec la radiofréquence, c'est que c'est quand même très limité dans le temps en termes de résultats. Je trouve qu'il y a un bel effet œdème, mais c'est une pratique qui est coûteuse. Et donc, pour quelqu'un qui veut allouer un budget très important à son esthétique, why not? Mais pour quelqu'un de lambda qui a envie d'un résultat sur du plus long terme et de ne pas avoir à répéter les séances, je trouve que les injections marchent quand même beaucoup mieux et les mesures préventives.
D'accord. Et vous pensez vraiment qu'on peut prévenir tous ces problèmes? Parce que, bon, bien sûr, on a parlé des solutions et des dernières techniques qui vont arriver.
On peut prévenir, effectivement, par le positionnement déjà, l'hydratation au quotidien, le fait de s'hydrater vraiment le décolleté de manière très importante et aussi éviter le soleil, parce que le soleil, en plus de tous ces phénomènes-là de petits plis, peuvent causer des petites taches pigmentaires sur le thorax. Et c'est vrai qu'on ne fait pas très attention, mais on peut avoir des petites taches qui apparaissent. Et ça, après, pour les faire partir, il faut soit du laser, soit des préparations pharmaceutiques chez le dermato.
Mais bon, qu'il y a des lasers ou des préparations, mais on est d'accord, on peut les utiliser, parce que sur les mains, ça c'est beaucoup, sur le visage aussi. Sur la poitrine, il n'y a pas de souci, la peau n'est pas trop fine,
non,
on
la
peut
peau
utiliser
est pas trop fine,
les lasers.
Elle est au contraire bien épaisse.
D'accord,
donc on peut.
Très bien. Bon, il y a quand même des solutions.
Et je crois qu'il faut éviter le tabac, évidemment. Hein, voilà, ça fait des petits plis aussi. Hein.
Les petits plis, la mauvaise circulation globale sur, sur la peau altère, effectivement, et fait vieillir précocement.
Voilà encore une bonne résolution. S'occuper de son décolleté pour la nouvelle année.
C'est important. Abdel, vous avez tout noté, j'espère.
J'ai tout noté. J'ai surtout retenu que le décolleté de Julia avait 30 ans d'avance que son visage.
C'est vrai que j'ai la peau du décolleté beaucoup plus jeune que la peau du... merci docteur Aurène Marco pour toutes ces explications. On a compris qu'un décolleté parfait, c'est pas si compliqué. Il y a des tas de solutions aujourd'hui. Et à présent, que le décolleté est nickel, enfin presque, c'est à tout le reste du corps qu'on va s'intéresser avec vous, Jean-Marc Delorme.
Oui,
je rappelle
que
vous êtes notre coach sportif. Alors, vous en doutez, hein, le 4 janvier, nos attentes sportives sont à leur maximum. On est ultra motivé pour le moment. Alors profitez-en, on vous écoute.
Alors déjà, c'est une période vraiment charnière en ce moment, parce qu'évidemment, on vient de passer les fêtes où on vient de se goinfrer. Hein, ça, c'est la première
chose. De se baffrer, on peut le dire. Oui.
Voilà. Et puis la deuxième, c'est vrai qu'en ce moment, avec la pandémie, c'est une période un peu difficile pour le sport. Donc là, il faut vraiment s'armer de motivation. Puis moi, je vais vous donner 2-3 trucs pour que ça dure, pour que vous puissiez poursuivre votre activité physique toute l'année dans les meilleures conditions. Juste une petite recommandation, l'OMS, juste pour la santé, préconise 150 minutes d'activité par semaine. Ça fait à peu près 30 minutes, 5 fois par semaine. Mmh. Et ça diminue de 80% les risques d'AVC.
Oui, mais si on fait 3 fois 1 heure par semaine, c'est déjà bien.
C'est déjà pas mal.
Oui.
C'est déjà pas mal.
Mais vaut mieux un petit peu chaque jour, hein, ou tous les 2 jours. C'est
tous les 2 jours, c'est un bon rythme. Ouais,
donc ça diminue les AVC, ça diminue les infarctus. Et comment on va faire pour que ce ne soit pas un feu de paille?
Comment on va faire? Déjà, la première chose, c'est un bilan médical. Alors encore plus après 40 ans, juste vérifier au niveau cardiaque, ça c'est hyper important. Si vous avez plus de 40
Julia,
ans...
Julia, vous avez entendu un bilan médical.
J'ai acheté une petite maison et j'ai fait un test d'effort.
Et ben voilà, très bien. Ah. Donc un test d'effort, ça c'est quand même préconisé après 40 ans.
J'ai le temps encore.
Vous avez au moins 2 mois devant vous.
Deuxième chose, c'est vérifier vos articulations, tout le système musculo-tendineux, ostéo-articulaire, tout ça c'est important. Hein. Si vous avez des problèmes de genoux, c'est récurrent, de dos, etc. Déjà, savoir où vous en êtes d'un point de vue médical. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être un bilan sportif.
Je me dis médical, gynéco,
le mec,
il a fait un blanc, j'ai eu peur. Un bilan, oui, c'est vrai qu'on parle de sport, j'avais oublié, pardon. Allez-y.
Alors, le bilan sportif, ça va être aussi hyper important, c'est-à-dire qu'il va falloir s'orienter sur votre choix. Quelle activité vous avez vraiment envie de faire? D'accord. Ouais. Donc ça, c'est
Julia. Julia. Quelle activité?
Ah, mais moi, moi j'adore la boxe. J'aimerais bien faire de la boxe.
Par exemple.
Ah, moi aussi, on pourrait y aller ensemble.
La boxe. Ça, c'est
quoi? Je vais vous marrer, vous avez dit?
Un sou de ça. Il y a un embrouille sur le plateau. Donc ça, c'est la première chose. Combien de temps puis-je allouer, d'accord ? Combien de temps je vais pouvoir faire cette activité par semaine ? Sans que ça empiète sur mon temps familial,
sur mon
temps professionnel.
Il faut deux minutes pour m'arraver, Julia, à la boxe, ouais. Vous inquiétez pas.
Non, mais j'ai un très bon droit.
Donc tout ça, il faut se poser ces bonnes questions et aussi faire quelques tests. Alors, vous avez pléthore de tests sur Internet, mais au moins un test d'effort, à savoir le test de Ruffier, par exemple. Hein, vous pouvez aller sur tous les sites Internet, il est parfaitement décrit. Et puis également, test de souplesse, au moins. Voilà,
pour mais je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le Tudor Lock. C'est quoi ça, l'échelle de Tudor Lock? C'est quoi?
L'échelle de Tudor Lock, alors c'est selon, on a beaucoup de montres connectées maintenant, voilà, et ça va être en fonction du nombre de pas. Ça aussi, peut être un bon test. Donc en dessous de 5000 pas, on est inactif, d'accord. Entre par exemple 7005 et 10000, on est modérément actif. Et autour des 12500, on est très actif. D'accord. Donc ça, vous avez ça maintenant sur les téléphones.
On va comparer avec Abdel. Hein. Hier, j'étais donc, à 10900 pas. C'est pas mal.
Mais c'est pas mal. C'est plutôt actif. Super. Donc ça vous donnait aussi des petites indications sur votre forme. Voilà. Alors le mieux,
mais
évidemment, c'est d'avoir
des objectifs. C'est ça,
Julia Vignali.
Alors ça, c'est ce qui va vous faire durer, enfin ce qui va vous faire perpétuer la
motivation.
La motivation, c'est les objectifs. Alors déjà, choisir des objectifs qui sont atteignables. Inutile de vous dire si vous voulez faire un marathon dans 3 mois, que vous avez du mal à boucler un 10 km. Déjà, c'est
mais ça serait un objectif de challenge, par exemple. Je veux faire le marathon. Voilà. Pourquoi pas
Mais on n'a pas d'objectifs physiques.
Ça peut être un objectif physique.
Juste être mieux gaulé. Ça,
moi, je voudrais avoir le look de Ryan Gosling, par exemple.
Je vais faire ça, Docteur Beauty.
Alors, il faut être progressif aussi. Ça, c'est,
moi,
c'est
j'ai envie d'être J-Lo. Jennifer Lopez.
Alors tout est possible, mais il faut que ce soit, hein, vous avez compris, justement par des objectifs intermédiaires. Hein.
Vous, je sais pas, c'est en kilomètres. Vous avez fait 2,8 km hier. Je sais pas si c'est beaucoup en pas. Je m'en rends pas compte.
C'est
énorme.
C'est en voiture, c'est Julien,
énorme,
peut-être. Non,
c'est pas si mal.
Ah, c'est en taxi, je vous disais aussi.
Donc les objectifs atteignables, de choisir des intermédiaires, tout ça c'est hyper important. Et donc ça va passer par la motivation, d'accord. Il y a deux sortes de motivation, la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui va être procurée par la pratique elle-même, d'accord. Je fais du ski, j'adore la sensation de glisse, c'est une motivation intrinsèque.
D'accord. J'aime le pain, je continue à manger du pain, ça c'est intrinsèque.
Ou alors la motivation extrinsèque, qui est par exemple, je fais du sport parce que ça me permet de perdre du poids. C'est pas lié à l'activité directement, mais j'en ai des conséquences.
Ce que je veux. D'accord. Ça me permet de manger ce que je veux.
Ça, c'est
Aurène, vous êtes plutôt sur celle-là, non ?
Moi, je suis plutôt sur ça. Ouais.
Mais Jean-Marc, je vous entends souvent dire qu'il faut être régulier, et ça c'est sûr, mais de ne pas dépasser au départ 2 séances par semaine. Pourquoi ?
Alors, de ne pas dépasser, c'est une manière de parler, mais au départ, il ne faut pas non plus s'épuiser. On risque de blesser, on risque de perdre la motivation si on est trop fatigué,
donc
etc.
Donc, on y va mollo, vraiment.
On y va mollo. Les 2 heures par semaine, c'est déjà pas mal.
Il y a des gens
qui
convient trop de leur dire d'aller mollo, faut les pousser.
Oui, bien sûr. Mais bon,
un petit coup de pied aux fesses.
Il faut y aller à partir de 2 heures par semaine, et puis après, on progresse petit à petit. Mais bon, ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon.
C'est sûr. Merci beaucoup, Jean-Marc.
La dernière chose, l'alimentation, évidemment, ça va de pair avec le sport.
Vous savez qu'on en parlera.
Sans tomber dans du staccanovisme, mais on fait quand même attention.
Vous me donnez
à ce
envie
mange.
De reprendre un peu de pita.
Allez, prenez un peu de pain, Julia. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour tous ces conseils sportifs. S'il y a bien un jour de l'année où on les accueille avec la plus grande motivation, c'est bien là, hein, le 4 janvier.
Ça,
mais promis, on va tenter bien sûr cette fois de les suivre vraiment toute l'année. Toutefois, heureusement que vous êtes là tous les mardis, hein, pour la petite piqûre de rappel, on ne sait jamais. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. C'est, voilà, l'émission est terminée. On sera évidemment de retour demain dès 11h. Et Julia, demain, qu'avons-nous au programme ?
Alors, Mélanie, demain, on va vous proposer un témoignage passionnant sur la résilience, cette faculté à s'adapter et à rebondir malgré les épreuves de la vie. Nous recevrons donc Marine Barnerias. Elle a appris à 21 ans qu'elle souffrait de sclérose en plaques et elle sort demain un film qui s'appelle Rosie, un film sur son parcours extraordinaire, une leçon de vie qui devrait tous nous inspirer, vous verrez.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.